RCF. Stanislas de Larmina, bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois aujourd'hui dans les studios de RCF Alpha parce que vous avez lancé un pèlerinage, vous vous êtes lancé au moins dans un pèlerinage de 4000 km. Une démarche de dialogue et vous avez projeté de faire étape donc à Notre-Dame de Rennes en Saint-Melaine pour parler d'écologie lors de la journée mondiale de prière pour la création. Une soirée avec Gilbert Landais, membre de Chrétiens Unis pour la Terre que nous connaissons bien en Ille-et-Vilaine. Mais vous êtes connu, vous, pour votre conception, on va dire, critique de l'écologie et vous vous interrogez sur ce que pourrait être une vision chrétienne de l'écologie justement. Alors, le sens de ce pèlerinage, d'abord 4000 km dans une démarche de dialogue. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, parce que vous n'êtes plus tout jeune, hein, vous êtes quand même, vous avez 73 ans, il me semble.
Voilà.
C'est ça. Donc, bon, le marché, ça permet de garder la forme. Mais quand même, quel est le sens de ce pèlerinage de 4000 km?
Oui, alors, d'abord, c'est pas pour garder la forme, hein. C'est une démarche d'abord spirituelle avant d'être une démarche de dialogue. C'est-à-dire que j'ai décidé de passer par tous les centres Mario, les cinq grands centres Mario, pour essayer de me remettre dans une démarche de prière et de confier, à la Vierge tous mes engagements. Parce que, effectivement, je suis engagé depuis plus de 10 ans maintenant dans un travail de réflexion sur la pastorale écologique. J'ai écrit quelques livres, j'ai participé à des rencontres diverses et variées dont on va peut-être parler. Donc voilà, donc, et je profite de cette démarche spirituelle pour effectivement proposer le dialogue là où je passe avec les personnes qui acceptent de m'accueillir dans les paroisses, dans les diocèses. Voilà.
Alors je disais, vous avez une vision critique de l'économie par rapport au modèle dominant. Alors, on va en parler hein, de cette critique de l'écologie, mais de quelles compétences techniques, professionnelles, scientifiques vous vous inspirez justement pour critiquer, par exemple, des représentants du GIEC, le voilà. Fameux organisme international hein, qui a mis en évidence le réchauffement climatique sur la Terre.
Voilà. Alors, ma compétence, c'est essentiellement mon travail. C'est-à-dire que depuis maintenant 10 ans, c'est quasiment un plein temps pour moi. C'est-à-dire que je vais à la recherche de sources plurielles. Et en particulier pour rédiger mes ouvrages. Dans ce cadre-là, par exemple, j'ai été amené à rencontrer le président du Conseil pontifical des sciences.
Des sciences.
Hein, l'Académie pontificale. Et au cours de cette rencontre-là, j'ai découvert que le président, qui est quand même un prix Nobel, reconnaissait qu'il n'y avait jamais eu à l'Académie le moindre débat contradictoire. Or, en science, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et c'est pour cela que je vais à des sources plurielles. J'ai eu d'autres expériences. J'ai été appelé par le rédacteur, Mgr Crepaldi, le rédacteur du compendium pour la doctrine sociale de l'Église, qui m'avait demandé de faire une intervention au groupe écologique des évêques européens. Une autre fois, avec mon approche un petit peu critique, j'aime pas beaucoup le mot, parce que ça a l'air d'être une posture que j'aurais, c'est une prise de recul, et j'ai rencontré un évêque qui m'a dit, mais écoutez, je vais vous proposer de rencontrer la vice-présidente mondiale du GIEC. Alors tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est le GIEC,
oui, donc,
c'est
ouais.
L'organisation de l'ONU, on va dire en gros, qui organise ce que tout le monde connaît, la COP 21, et les COP qui se succèdent tous les ans. Donc, à l'occasion de cette rencontre avec 2 fois 6 heures, ce n'est pas rien, eh bien, j'étais avec un expert et on n'a pas eu du tout la prétention de leur faire changer d'avis, mais ils n'ont pas réussi à broyer l'expert comme on aurait pu s'y attendre. Et donc, c'est tout ça qui m'a amené à publier les minutes de ce débat dans un livre qui s'appelle « Climat et si la vérité nous rendait libres ». Et donc, c'est essentiellement du travail. La compétence, je me plais à dire que n'importe qui est capable, à condition de travailler et d'en avoir envie, est capable d'avoir accès à une prise de recul. Je vais vous donner un ou deux exemples. Par exemple, quand on dit la probabilité qu'il y ait 95% de chance que ce soit le réchauffement climatique soit d'une cause humaine, quand nous avons posé la question à la vice-présidente du GIEC, elle a répondu « ce n'est pas une probabilité calculée, c'est une probabilité subjective ». Je laisse le soin à celui qui entend cela, même s'il n'est pas compétent, de se faire une idée. Et puis quand on continue et que l'on pose la question, mais sur quelle période travaillez-vous vos questions, vos modèles, ils répondent sur 150 ans.
Oui, parce que c'est les mesures du climat, quoi, parce que ça date seulement de 150 ans. Là, il n'y a pas le recul de plusieurs siècles.
La vice-présidente mondiale du GIEC est ce que l'on appelle une paléoclimatologue, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement capable, et elle sait faire, c'est de trouver les moyens de remesurer avec d'autres instruments que un thermomètre, les températures qui existent depuis plus de 1000 ans.
Par exemple, dans la glace, dans les fonds glaciaires.
Glace, mais il n'y a pas que cela. Il y a les cernes des arbres. Il y a des tas de méthodes pour retrouver. Or, comment peut-on expliquer que le réchauffement est d'origine humaine quand on n'est pas capable d'expliquer le réchauffement qu'il y a eu à la période médiévale?
C'est-à-dire qu'il peut y avoir différents types de réchauffement.
Qui se combine à un moment donné. Oui, mais il faut rester simple, vous savez, il n'y a pas 36 formes de réchauffement, et puis après, il y a d'autres moyens de se faire sa propre idée dans un débat, c'est de dire, est-ce qu'il y a de l'invective, est-ce qu'il y a de l'esquive aux questions, est-ce que j'envoie un brouillard pour semer et perturber les opinions. Donc, c'est à la portée, à condition d'un petit peu travailler. Donc, voilà un peu ce que je répondrai à ce que vous me demandez sur la compétence et la légitimité que j'ai.
Stanislas de Lermina, vous parlez d'écologisme. C'est-à-dire quoi l'écologisme? Alors, on imagine bien que c'est quelque chose de péjoratif hein, dans votre bouche. Vous dites que le réchauffement climatique n'est pas principalement dû aux causes humaines. Pourtant, il y a bien un réchauffement climatique aussi dû aux causes humaines, même si c'est pas forcément la seule cause.
Dire qu'il y a bien un réchauffement de causes humaines, c'est une affirmation qui mérite d'être étayée. Et moi, je m'aperçois que les experts qui se confrontent au GIEC et que je rencontre, eh bien, disent que c'est la faute du soleil et qu'on explique parfaitement le réchauffement climatique du Moyen-Âge simplement par le soleil. Il y a des cycles solaires, voilà. Donc l'écologisme, qu'est-ce que c'est? C'est un système de pensée, ce qui est beaucoup très différent. Et là, il faut rentrer, et j'essaye de décrypter qu'est-ce qui peut bien motiver des affirmations et quelles sont les arrière-pensées qu'il y a derrière l'écologisme.
Alors, à votre avis, ce sont lesquelles?
Ça devient non plus de la science, mais une opinion très personnelle. C'est que je pense que la peur devient dans notre monde, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, dans notre monde en tous les cas, devient un instrument de gouvernance. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, mais de quoi n'avez-vous pas peur? Nous avons peur des OGM, nous avons peur du réchauffement climatique, de la disparition de l'ozone, du glyphosate, de la diminution des ressources naturelles, de la surpopulation, ne parlons pas du virus, du jour de dépassement. Vous savez, au mois d'août, on aurait commencé à consommer la deuxième planète, on a peur de la sixième extinction des espèces. Tout cela crée un climat de peur. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Le résultat, c'est que quand je discute avec ma petite fille, j'ai 19 petits-enfants, alors vous voyez, je suis un pollueur. Donc, je souris, ma petite fille me dit, mais tout ce que vous dites est inaudible. Vous ne vous rendez pas compte à quel point mes amis sont dans un état de panique avancée. Eh bien, je dis que quand on a une culture qui conduit les enfants et la jeunesse à maintenant suivre les mouvements qui s'appellent « no kids », c'est-à-dire « pas d'enfants », le premier des éco-gestes, c'est de ne pas avoir d'enfants aujourd'hui, c'est pour la jeunesse, ce n'est pas sain. Pour après il y a le deuxième courant, c'est le kill yourself, c'est-à-dire suicidez-vous pour sauver la planète. Et vous avez le Koki Komori qui est un phénomène qui vient du Japon. Vous avez plusieurs millions de personnes au Japon qui derrière ce mot japonais, recommandent de s'enfermer, ne plus sortir tellement on a peur de tout.
Oui. Alors là, bon, ce sont des expériences marginales et on espère qu'elles vont rester marginales quand même. Hein, ce que vous...
Ah mais ça arrive en France.
Oui, ça arrive en France, mais enfin, ça reste quand même très marginal. Mais quand même, revenons à la question, donc Stanislas de Larmina, du réchauffement climatique humain. Quand même, l'accumulation des gaz carboniques dans l'atmosphère, ça crée quand même un réchauffement.
Mais bon, je n'ai pas tellement envie de qu'on passe trop de temps là-dessus, parce que j'ai écrit des ouvrages qui expliquent, c'est une affirmation, le CO2 provoque le réchauffement, ce n'est pas évident, il suffit pas de le dire parce qu'il y a un consensus. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, attention, moi je suis favorable au consensus social, c'est-à-dire que sur un certain nombre de problèmes dans la société, le consensus est révélateur d'une forme d'amitié sociale. C'est très chrétien, ça. Moi, je suis pour. Mais en science, le consensus, ce n'est qu'un argument d'autorité. Dire il y a des milliers de personnes qui disent que le CO2 provoque le réchauffement, ce n'est qu'un argument d'autorité. Ça ne donne aucune autorité à l'argument. La seule moyen qu'il y a, et je suis désolé, on va pas le faire dans une émission d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, on va pas pouvoir quantifier, parce que l'effet de serre, ça existe, mais il ne suffit pas de dire que l'effet de serre qui existe en laboratoire, c'est-à-dire que quand on envoie des rayons d'infrarouge dans un bocal qui contient du CO2, eh bien les rayons d'infrarouge sont bleus. Ok, ça c'est pas parce que ça marche en laboratoire que ça marche quand les masses atmosphériques colossales, tourbillonnantes, renvoient des masses de chaleur à plusieurs milliers de mètres d'altitude. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut passer par des méthodes complexes de quantification.
Mais alors donc vous dites c'est l'activité solaire qui est la principale cause du réchauffement actuellement là.
Oui, plus que principale.
Plus que principal.
Oui, oui.
Pour vous, c'est exclusif, quasiment.
Oui, oui. Parce que, quasiment, bon.
Quasiment. Enfin, vous laissez quand même un peu de place à la pollution qui encombre l'atmosphère.
Quand on dit pollution, il faut dire de quelle pollution parle-t-on. Les poussières fines, c'est une pollution. Le soufre, les gaz soufreux, ce sont d'autres pollutions. Il est évident qu'en Chine, des chaudières électriques au fioul dégagent des poussières, parce qu'ils n'ont pas le développement économique qui a permis à des pays comme l'Allemagne de produire de l'électricité avec des combustibles fossiles sans aucune poussière. Donc il faut savoir de quoi je parle, où je parle et quantifier les problèmes.
Donc vous rejoignez la position d'un ancien ministre, je crois, de Lionel Jospin dans les années 90, Allègre, Claude Allègre.
Je ne le rejoins absolument pas pour une simple raison, c'est que il disait à la fois que il n'y avait pas de cause humaine du réchauffement climatique, mais en même temps il disait qu'il fallait faire des forages pour bloquer le CO2 dans des puits de carbone, et en plus il ajoutait que le problème n'était pas là, que le vrai problème c'était la surpopulation. Autrement dit, il y a énormément de... J'ai une position qui est très spécifique et qui est très chrétienne, croyez-moi.
Stanislas de Larmina, donc on a parlé du réchauffement climatique, vous souhaitez, vous minimisez le réchauffement climatique à partir des causes humaines. Parlons aussi des OGM. OGM, donc ils sont souvent diabolisés, quoi, dans notre société aujourd'hui. Alors, vous avez une position très différente de la plupart de ce qu'on appelle les écologistes, au cas.
Oui, bien sûr, mais moi je ne crois pas qu'il y ait eu une seule fois un mort à cause des OGM, donc en tous les cas...
Et en tous les cas, c'est pas facile à prouver.
Comment ?
C'est pas facile à prouver que s'il y a eu un mort...
Depuis 30 ans que le monde entier se nourrit avec des OGM, depuis 20 ans que tous les animaux qui sont abattus dans les abattoirs américains, il y a des autopsies de tous les animaux, y compris du porc qui est le plus proche de l'homme, et qu'il n'y a pas le moindre accident décelé par les vétérinaires, ça vaut n'importe quelle expérience sur 10 rats. Donc non, il n'y a aucun danger.
Aucun danger pour les OGM.
D'accord. Aucun.
D'accord. Donc là, c'est quoi? Comment vous expliquez dans la société là cette peur des OGM? C'est quoi? C'est parce que c'est une manipulation du vivant et donc ça fait peur.
C'est vrai que de la même manière que le nucléaire fait peur parce que les opinions publiques n'y comprennent pas grand chose et c'est vrai que c'est compliqué.
Oui.
Même
moi, ça peut être dangereux en cas d'explosion.
En cas d'accident, bien entendu. Hein. Mais la génétique est quelque chose de très compliqué. J'ai fait une école d'agronomie, j'ai eu des cours de génétique pendant plus d'un mois et je peux vous dire qu'au bout d'un mois, je ne comprenais toujours rien. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Donc ça fait peur, oui.
Alors nourrir la planète, vous avez dit un mot tout à l'heure. Nourrir la planète, alors c'est vrai qu'à une certaine époque, les gens mouraient de faim. Au Moyen-Âge, les gens mouraient de faim parce que on n'était pas capable de produire suffisamment. Et puis ensuite, il n'y avait pas de circulation des marchandises comme aujourd'hui. Donc s'il y avait une famine quelque part, on ne pouvait pas approvisionner le pays pour nourrir les gens. Aujourd'hui, on peut nourrir toute la planète et il y a une croissance quand même assez forte de la population. Vous avez une vision optimiste là-dessus ou malthusianiste, comme on dit?
Oh, alors là, totalement optimiste, pas du tout malthusien.
Parce que Malthus était un pasteur, en plus, hein,
Oui, mais vous savez, ça date aussi d'Aristote. Aristote disait que je ne sais plus combien de chefs de famille, la cité était condamnée à mort. Donc le malthusianisme est quelque chose de vieux, de très vieux. Mais moi, je suis convaincu. Alors d'abord, il y a des études, y compris qui sont reconnues par la FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation, et qui a été reconnue par Benoît XVI quand il a fait un discours devant la FAO, qui montre que même en 2050, même avec 10 milliards d'habitants, alors je ne dis pas le mot « il n'y aura pas de problème ». Depuis que l'homme est homme, il est condamné à cause du péché originel à résoudre des problèmes et à travailler malheureusement à la sueur de son front. Donc il y a du travail, il y a des choses à faire. Mais je pose une question simple. Est-ce que qui est capable de se dire que en 2100, prenons une date au hasard, les petits-enfants de ma petite fille, qui, à ce moment-là, ils seront peut-être 20 milliards. Est-ce qu'on croit une seconde que la planète, que Dieu va envoyer l'Apocalypse en nous disant « Ah, je leur en avais pas demandé autant !» Vous comprenez? Mais Dieu est à l'origine d'une abondance de biens. À cause du péché, nous sommes obligés de travailler et dur. Mais il n'y aura pas de problème. Il y a abondance de tout ce que l'on veut, de toutes les ressources naturelles.
Alors, actuellement, sur la planète, il y aurait suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. Mais quand on regarde ne serait-ce que les poubelles aux États-Unis, ça pourrait permettre de nourrir plusieurs pays, quoi. Parce qu'il y a du gaspillage, même en France, quoi. Les gens achètent beaucoup trop de choses et ils ne consomment pas à temps. C'est jeté, il y a un gaspillage énorme, donc déjà davantage de partage, ça permettrait de nourrir tous ceux qui sont en manque.
Oui, je vais vous dire, le gaspillage, on va parler peut-être de ce que c'est que l'écologie chrétienne. Pour moi, la frugalité est une vertu, qui me permet de me dépouiller, et c'est pas facile, pour personne, ni pour moi, de me dépouiller pour mieux écouter Dieu et mieux écouter le cri des pauvres. Mais la frugalité n'est pas un instrument de redistribution. C'est-à-dire que je suis contre le gaspillage parce que, d'abord, le gaspillage est anti-économique, avant d'être anti-écologique, il est d'abord anti-économique, et le gaspillage, finalement, me fait oublier ce que Fabrice Hadjadj dit avec merveille. Il dit, il y a un moment où la surconsommation, et le gaspillage est une forme de surconsommation, est une culture de mort parce qu'il me fait oublier que je suis mortel. Donc, autrement dit, le gaspillage me fait plus de mal à moi, à mon cœur profond, qu'il ne fait de mal à celui qui n'a pas à manger. Parce que la méthode de moins gaspiller ne va pas augmenter la quantité de ressources. Elle est colossale, la quantité de ressources. Il n'y a pas de limite aux ressources naturelles, je le répète.
Aux ressources naturelles.
Aux ressources naturelles, au pluriel.
Donc
pas
le jour du dépassement, vous n'y croyez pas. Le jour du dépassement, vous n'y croyez pas.
Absolument pas.
Donc on a donc à cette époque déjà consommé tout ce que la planète peut renouveler chaque année.
C'est absolument. Qui dans les auditeurs et qui dans la presse est allé voir le calcul de ce jour du dépassement? Je vais vous le dire en 30 secondes. C'est vous additionnez des océans dont nous avons besoin pour manger des poissons, et nous additionnons avec cela des surfaces de continents pour produire du blé. J'aimerais trouver l'agronome qui est capable de me faire le coefficient d'équivalent entre un hectare d'océan et un hectare de... Alors on additionne ça, et on dit, voilà ce dont la planète, l'humanité a besoin, et on dit, ah oui, mais il faut ajouter en plus des surfaces virtuelles. Ouh là là. Quelle surface virtuelle? Celle qu'il faut pour recycler les déchets. Et quels sont les déchets? Il n'y en a qu'un, le CO2. Et donc il faut une deuxième planète pour planter des forêts pour recycler le CO2. Excusez-moi, mais qui a été voir ce calcul? Ce n'est pas crédible une seconde.
Alors, donc vous dites qu'on est carrément dans la désinformation générale.
Oui, oui, oui.
Désinformation générale, oui. D'accord. Concernant la croissance zéro, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, c'est la frugalité, la croissance zéro, donc vous devriez être d'accord.
Je suis d'accord pour que la croissance soit au service de l'homme, mais quand nous serons le double de la population, on ne va pas jouer la croissance zéro. Il faudra bien une forme de croissance. Donc ce qu'il faut, c'est que cette croissance soit non seulement réponde à tout ce que la doctrine sociale de l'Église rappelle, c'est le bien commun, c'est la destination universelle des biens, c'est la subsidiarité, c'est le principe de dignité de l'homme, ce sont tous ces principes-là, il faut mettre la croissance à ce service-là. Mais la croissance zéro, ça ne tient pas debout pour aller dire cela à l'Afrique. Mais attendez, ils vont vous dire, mais allez, circuler, c'est pas notre problème. La croissance zéro, c'est une coquetterie de riches.
Donc voilà, un combat très clair par rapport à ça. Stanislas de Lermina, alors quelle est l'alternative à cette écologie dominante? Parce que j'imagine que vous avez du mal à percer, à vous faire entendre avec ce discours qui va à contre-courant de ce que l'on entend, de ce qui passe au moins pour acquis dans notre société, même si les acquis en matière de science sont sans arrêt révisés.
Oui. Eh ben écoutez, d'abord, c'est vrai que j'ai du mal à me faire entendre, mais je vous remercie de me recevoir, à l'occasion de cette conférence de ce soir. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais que mon principal message est de distinguer ce que j'appelle l'écologie locale et l'écologie globale. L'ONU évoque sans arrêt, et les organisations non gouvernementales évoquent sans arrêt ce qu'on appelle les 9 limites planétaires, c'est-à-dire le climat, l'acidification des océans, la 6e extinction des espèces, la disparition de la couche d'ozone, etc. Ce sont des choses planétaires. Bon, je vous en ai évoqué une ou deux en passant, elles ne sont pas fondées scientifiquement. En revanche, en matière d'écologie locale, il y a des milliers et des milliers de pollutions qu'il faut surtout pas négliger. Ne parlons pas seulement de Bhopal ou de Tchernobyl ou de toutes ces grandes catastrophes industrielles. Ce sont des catastrophes, mais ce sont des catastrophes pour l'homme avant d'être une catastrophe pour la planète. Parce que vous pouvez additionner des milliers et des milliers de pollutions locales, ce n'est pas cela qui va mettre la planète en péril. Ça va mettre ça cause des souffrances à l'homme qui est dans cet environnement local, et donc il faut lutter contre cela. Et plus un pays est développé, moins il y a de pollution locale. Allez dans les pays d'Asie, vous allez voir ce que c'est que des pollutions locales. C'est dramatique. Mais de la même manière qu'à Londres, il y avait le phoque dans les années 1950 qui ont fait des milliers de morts. Eh bien, de
le
la
fog,
même
donc on rappelle, c'est le brouillard.
Le brouillard, oui. Excusez-moi.
Le fog.
Vous avez raison. Eh bien, il y a la même chose à Pékin aujourd'hui. Oui. Et bien entendu, je donne pas 50 ans pour que les Chinois, d'abord, se révoltent un peu et qu'ils aient les moyens économiques de lutter contre...
Alors justement, question intéressante, vous parlez des Chinois. Quand on regarde les Chinois à la fin des années, mettons, années 80, du temps de Mao... Ils étaient tous à bicyclette à Pékin, on va dire. Voilà, c'était très écologique. Aujourd'hui, ils se sont enrichis, ils sont tous en voiture, pris dans des embouteillages, ils perdent des heures dans les rues, et avec une pollution invraisemblable dans la ville. Donc là, il y a une évolution. Parce qu'on cherche à imiter le modèle occidental, on a du mal à se détacher de ce modèle occidental. Donc là, il y a un problème, là, au niveau du comportement humain, au niveau de la fascination que l'on a par rapport à un certain mode de vie.
Je ne crois pas qu'il y ait des modèles, parce que ça ne marche pas. Les Chinois sont comme tout le monde, ils ont eu accès à la voiture, ils trouvent qu'il y a une facilité de circulation.
Sauf qu'il y en a trop.
Le jour où ils découvriront eux-mêmes qu'ils perdent trop de temps dans les embouteillages, ils trouveront d'autres solutions comme nous en trouvons nous. Hein? Donc, il n'y a pas besoin de faire un jugement moral, et en tous les cas, ce n'est pas... Alors, la pollution, une fois de plus, il faudrait voir de laquelle on parle. S'il s'agit de l'effet de serre, non, la voiture n'a pas de conséquences sur l'effet de serre.
Pas du tout.
Par contre, si on utilise des voitures avec des pots d'échappement qui ne sont pas efficaces, oui, il y a de la pollution.
C'est le cas de tous les pots d'échappement. Enfin, il y a aucune voiture.
Pas dans nos pays occidentaux. Nos pays occidentaux ont des pots d'échappement qui fonctionnent.
De plus en plus performants. Compte tenu de l'abondance de la circulation, ça pollue quand même.
Bon, une fois de plus, de quelle pollution parle-t-on ? Il faut rentrer dans les détails, sinon voilà.
Pareil pour alors que les Chinois sont fascinés par le modèle, je disais, occidental, ils consomment de plus en plus de viande. Alors la viande, elle est beaucoup plus polluante à produire que les végétaux directement, quoi. Un kilo de viande, ça consomme, alors je sais pas comment vous analysez les choses, mais des hectares, l'équivalent d'hectares de végétation.
Oui. Bon. Là encore, il n'y a pas de problème de surface, hein. La question de la viande est bourrée d'idéologie, parce que même l'INRA a reconnu que depuis 20 ans qu'on nous dit que la consommation de viande consomme, j'ai oublié le chiffre, beaucoup plus d'eau qu'un hectare de blé.
Voilà.
Ils ont reconnu que c'était faux parce que on a compté l'eau qui tombe sur les prairies et qui nourrissent les vaches. Ben, vous enlevez les vaches, l'eau continuera à tomber sur les prairies. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit. Donc, pas d'idéologie, beaucoup de réflexion, beaucoup de calcul, et voilà.
D'accord. Donc, pour aller plus loin, on peut lire vos ouvrages. Alors, vous dites, je reviens sur un des points importants de cette rencontre, là. Vous parlez d'écologie chrétienne. Alors, c'est quand même risqué de parler d'écologie chrétienne, parce que, par exemple, Gilles Berlandais, que vous rencontrez à Notre-Dame de Rennes en Saint-Molène, se dit chrétien uni pour la terre, donc il fait aussi de l'écologie chrétienne dans Chrétien uni pour la terre, dans ce groupe.
Si,
et il n'a pas du tout les mêmes positions que vous.
Si, et ben, nous allons en parler ce soir. Si écologie chrétienne veut dire écologie intégrale, au sens de Laudato Si, je suis pour. Mais qu'est-ce que c'est que l'écologie intégrale ? L'écologie intégrale, c'est finalement une écologie qui prend en compte toutes les relations de Dieu, de l'homme avec lui-même, de l'homme avec son prochain, et de l'homme avec les créatures, et de Dieu avec les créatures, et vient à manquer une seule de ces relations, tout s'effondre. Si l'écologie intégrale, c'est cela, bien entendu, oui. Si l'écologie, chrétienne, c'est une réflexion scientifique, je rappelle que le Concile a dit... et c'est une loi pour tout chrétien, le concile, c'est les laïcs ne doivent pas attendre de leurs pasteurs, et je mets dans les pasteurs les conseillers des pasteurs, ne doivent pas, donc les laïcs ne doivent pas attendre qu'ils aient une réponse à toutes les questions, même graves, et l'écologie en est une, et ni même que ce soit leur compétence, ni même que ce soit leur mission. La mission chrétienne, c'est de rappeler la doctrine sociale de l'Église, les grands principes, mais ce n'est pas de prendre position sur les questions scientifiques. Hein? D'ailleurs, Laudato Si...
Il faut bien distinguer de la foi et de la science.
Exactement.
Voilà, d'accord. Exactement. Merci Stanislas de l'Armina. Donc, on peut aller sur votre site pour on peut dialoguer sur votre site aussi, il me semble.
Oui, tout à fait.
Alors, vous avez une position bien tranchée, hein, quand même. qui jure avec ce qu'on entend habituellement. c'est l'occasion de lancer le débat. Merci beaucoup pour cet échange sur RCF Alpha.
Merci à vous.